France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Vous vous souvenez de l'époque des godillots, quand on accusait les députés marcheurs, ceux de la majorité présidentielle, d'avoir le doigt sur la couture du pantalon. On a l'impression que cette époque a 200 ans. Depuis, les marcheurs s'appellent Ensemble pour la République. Ils sont très très loin de la majorité. Il n'y a d'ailleurs plus de majorité présidentielle depuis 2022 et personne n'a le doigt sur la couture du pantalon. Désormais, Emmanuel Macron, combien de divisions ? Au lendemain de l'épisode Calimitude du gouvernement, le corps nu, à peine vu, déjà disparu. Le premier, c'est Édouard Philippe, premier ministre d'Emmanuel Macron, qui lâche la corde censée assurer la cordée et réclame une présidentielle anticipée. Et puis, tout couacoué, Gabriel Attal, lui, c'est le quatrième Premier ministre, le deuxième du mandat de l'ère Macron 2, et voilà que lui aussi tourne sèchement les talons. Je ne comprends plus les décisions, sans demander pour autant de démission. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron est devenu toxique pour le camp présidentiel ? Il faut s'en éloigner d'urgence pour avoir une chance au présidentiel. Nous poserons la question, bien sûr, la presse étrangère, en tout cas depuis hier, est sévère, parfois cruelle, puisqu'on est beaucoup à avoir pris les Belges en exemple ces derniers temps, qui ont cherché leur gouvernement pendant plus de 8 mois. On lit dans Le Soir, même la Belgique n'a pas osé, le chaos et l'irresponsabilité politique sont en train de torpiller la démocratie française. Nous avons inventé, dit Le Soir, le gouvernement interrupteur, ouvert, fermé. Pendant ce temps, les entretiens se poursuivent, mais Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau se sont vus séparément. Bruno Retailleau, qui n'a pas participé à une réunion du socle commun, pendant que les Verts et LFI se sont vus, mais sans les socialistes, qui ont vu leurs troupes, mais sans LFI, le RN, lui, dit non. C'est là que nous en sommes au jour 2, donc le lendemain d'un gouvernement jamais installé. Théoriquement, on essaye encore, same player, shoot again, comme on dit aux flippers, et quelque chose sortira peut-être de Matignon demain, soit c'est le cas, soit nous allons peut-être tous vérifier la validité de nos cartes électorales. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Xavier, vous êtes à Lille et vous êtes le bienvenu, bonsoir Xavier.
Bonsoir, donc merci de prendre ma réflexion. Donc voilà, moi comme beaucoup, je déplore la situation dans laquelle le président a jeté notre pays. Je pense qu'il doit nommer un gouvernement pour cohabiter. Donc un gouvernement de gauche, c'est tout. Mais par contre, moi je suis contre une démission parce que je me dis que dans le contexte mondial, dans le contexte géopolitique dans lequel on se trouve, qui d'autre pour défendre les intérêts de la France comme il le fait ? Je ne vous revoterai pas, certainement pas pour lui, mais moi je suis satisfait de l'image qu'il renvoie de la France dans ses prises de position à l'international.
Merci beaucoup.
Ça, c'est important.
Merci Xavier, merci pour cette entrée en matière et pour cette remarque, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Sozy Kemener qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef à la Tribune Dimanche, Stéphane Zumsteig est là, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du département politique et opinion à l'Institut Ipsos, et puis Maxence Lambrecq qui dort ici depuis hier, chef du service politique de France Inter. Sozy Kemener, est-ce que au fond, Xavier résume un peu ce qui reste aujourd'hui à Emmanuel Macron? C'est effectivement son rôle sur la scène internationale. On ne peut pas enlever qu'il y est présent. Le dernier grand moment en date, c'était la reconnaissance de l'État de Palestine aux Nations Unies. Est-ce que c'est tout ce qui lui reste?
C'est sûr, c'est très intéressant ce que dit notre auditeur, parce qu'il reflète une forme de nuance qu'on entend assez peu finalement dans la bouche des politiques. Alors effectivement, sur le plan international, Emmanuel Macron, je pense que personne ne pourra lui faire le reproche de ne pas avoir essayé tout ce qu'il pouvait pour le conflit en Ukraine, même si la France n'est pas évidemment au premier rang de ce conflit, pour la reconnaissance de l'État palestinien, et avec un succès, c'est-à-dire avec d'autres pays qui ont embrayé le pas derrière la France. Donc effectivement, il y a eu un moment français sur le plan international à New York, et pendant ce temps-là, le pays s'enfonce dans une crise politique qui semble, et c'est d'ailleurs ce qu'a souligné souvent Sébastien Lecornu, même s'il n'a pas parlé beaucoup, il l'a beaucoup répété, en même temps, le pays, la crise politique semble décorrélée des différentes crises internationales. Et il n'arrive pas, le président de la République, à lier les deux, comme il avait réussi à le faire en 2022, ce qui avait permis d'ailleurs sa réélection en grande partie. mais il n'y avait pas eu de campagne électorale véritablement sur les sujets français. C'est pour ça, sans doute, qu'on se retrouve aussi dans cette situation-là aujourd'hui.
Après, c'est intéressant, Stéphane Zumzeig, en effet, ce que dit Sozik Kemener, parce que jusqu'à présent, on avait aussi l'impression qu'il pouvait y avoir une frontière finalement assez étanche et que ce qui se passait dans le pays avait très peu d'influence sur l'Emmanuel Macron qu'on pouvait voir à l'extérieur. Là, quand on regarde, j'ai cité Le Soir tout à l'heure, mais si on se mettait à ouvrir la presse internationale, il y en a partout. Là, on a l'impression que la frontière est devenue bien plus poreuse, en fait, entre celui de l'intérieur et celui de l'extérieur.
Oui, mais c'est la fin un petit peu de l'exception française, parce que vous avez raison de le souligner à l'instant, Emmanuel Macron, il y a bien une chose que les Français lui ont toujours reconnue depuis 2017, mais jusqu'à aujourd'hui, quasiment aujourd'hui, c'est sa capacité à représenter la France, à faire peser la France sur la scène internationale et sur la scène européenne. Peu importe qu'il réussisse ou qu'il échoue. Oui, il a essayé d'entretenir un certain dialogue avec Vladimir Poutine pour le ramener à la raison, ça n'a pas marché. Il a essayé, durant le premier et le second mandat de Donald Trump, d'établir une relation particulière avec les États-Unis, avec Donald Trump, ça n'a pas fonctionné. Peu importe, au moins, dans ce contexte décliniste où les Français déplorent le poids de la France, qui est bien moindre qu'il y a 10, 20 ou il y a 50 ans, au moins, il est là pour faire parler de la France. Et ça, on l'a vu lors de la séquence diplomatique assez dense de ces derniers mois, ça lui a permis d'acheter du temps, quelque part. Mais là, effectivement, on se retrouve dans une situation, dans un blocage encore plus grave que les précédents, d'autant plus que, et vous le soulignez à l'instant, la presse internationale et nos partenaires internationaux, ne cessent de parler de ça. Là, il y a en plus un lien que font de plus en plus les Français entre le blocage politique et la situation économique qui va ou qui pourrait se dégrader. Ils n'y connaissent pas grand-chose au marché économique, mais quand la France, quand des notes sont dégradées, ils se disent que ça aura une traduction concrète sur leur pouvoir d'achat à un moment donné, sur la situation économique. Et là, ça devient, ça rend la situation du président de la République de moins en moins tenable.
Et surtout un lien, Maxence Lambrecq, entre la crise et lui. Alors est-ce que c'est trop cher payé, en fait ? Est-ce qu'il prend sur le dos des torts qui doivent être partagés ? Ou est-ce que, de fait, à un moment, c'est à lui que ça s'arrête, c'est à son bureau que ça s'arrête, donc oui, c'est lui qui plombe la situation aujourd'hui.
C'est sûr que vous l'entendez souvent dire qu'il prend tous les seins sur l'épaule et qu'il est l'épicentre de la crise, alors qu'au fond, les députés eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre et les différents partis n'ont pas aidé. Michel Barnier est tombé notamment à cause des LR et de Renaissance qui lui ont pas fait de cadeau. François Bayrou a voulu partir tout seul. Et dans la situation d'aujourd'hui, une fois de plus, le reproche qui est fait, c'est en gros son omniprésence là dans le gouvernement de Sébastien Lecornu, la place qu'il occupe dans toutes les négociations, la place qu'il occupe dans le maintien
donc ça veut dire que c'est lui qui tire les totems économiques. En fait, c'est ça que ça veut dire, les totems,
oui,
la fiscalité, la politique de l'offre, la réforme des retraites, c'est lui qui tient les totems, c'est ça que vous dites.
Évidemment qu'il les tient, il ne cesse de répéter, et encore j'étais avec lui à Copenhague lors du sommet européen la semaine dernière, on sent bien que c'est ce qui tient en fait, c'est à la fois la scène européenne et son bilan économique, et c'est les deux seules choses qu'il imagine laisser à la France demain. Donc bien sûr qu'il continue de tenir, et à Copenhague, c'était vraiment comme si de rien n'était, hein. On le voyait avec les chefs d'État et de gouvernement agir exactement comme si tout allait bien en France et qu'il avait tous les pouvoirs.
Avant de retourner au standard, Sozik Kemener, quand on voit, cela dit, la manière dont il est traité, si j'ose dire aujourd'hui, c'est-à-dire Édouard Philippe, première salve, et puis celle de Gabriel Attal, deuxième, est-ce que c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure en lancement, c'est-à-dire que cet homme est devenu toxique pour, au fond, sa majorité, et en vue des présidentielles, parce qu'on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, c'est ça la perspective à la fois de Gabriel Attal probablement, et celle d'Édouard Philippe, il faut s'éloigner de l'élément toxique, c'est ça que ça veut dire ou pas ?
Je pense qu'il y a un mouvement naturel auquel on assiste à la fin de chaque mandat ou deuxième mandat, alors c'est pas arrivé souvent, mais en tout cas d'un président qui puisse se représenter, qui ne puisse pas se représenter. Souvenez-vous de la rupture de Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac, il fallait être différent pour pouvoir proposer une nouvelle offre. Donc ça, c'est du logique et on s'y attendait à la fin du quinquennat. En revanche, on ne s'attendait pas à cette virulence de la part à la fois d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal. Gabriel Attal, je ne comprends plus le président, il est quand même à la tête des marcheurs. C'est-à-dire ceux qui sont allés littéralement faire du porte-à-porte au début. Hein. C'est ça l'histoire de ce parti, pour demander l'avis des Français, pour construire une offre politique différente. Je pense que ce qui se joue aussi, c'est est-ce que la parenthèse 2017-2027 va se refermer ou pas ? Est-ce que chacun va repartir dans son camp? Est-ce qu'Édouard Philippe va redevenir avant tout un homme de droite? Est-ce que Gabriel Attal va
même
redevenir avant tout un homme de gauche? Et on voit bien, il a fait turbuler le système en 2017, Emmanuel Macron. Et là, la question, c'est que est-ce que ces sillons-là vont se reformer? Et on voit bien, Édouard Philippe essaie d'envoyer des signaux. Non seulement aux macronistes déçus, mais plutôt aux macronistes issus de la droite.
Et est-ce qu'on va revenir finalement à un bon vieux clivage, on en parlait déjà hier, de droite-gauche un peu plus, j'allais dire, un peu plus clair que ça l'a été ces dernières années. On va aller au standard, Isabelle. Je vous ai vu, je voudrais juste, au passage, vous donner quand même cette réaction d'Aurore Berger, qui est au gouvernement démissionnaire, mais à qui on... porte-parole.
Porte-parole
démissionnaire. À qui on a évidemment posé la question à l'instant de la démission, et qui répond la question de la démission n'existe pas, fermez les guillemets. Bon, alors voilà, c'est tout ce que j'ai à vous soumettre pour l'instant. Voici Isabelle qui est à Toulouse et qu'on écoute avec plaisir. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
On vous écoute.
Infiniment merci de cet espace de parole offert. Et j'espère que Rachida Dati ne vous coupera pas la parole.
Allez-y Isabelle.
Et du coup, ça va avec mon inquiétude. C'est-à-dire que je suis incroyablement inquiète et pessimiste. C'est pas trop dans mon tempérament, mais je pense que la démocratie est en danger. Je trouve ça terrible. Le dernier sondage met le Front National à 33%. On parle d'alliance du Front National. Alors, excusez-moi, je suis une ancienne, donc je dis encore Front National.
Vous allez dire l'UMP aussi?
Avec l'UMP, enfin, je ne sais même plus, enfin, bref, avec le LR. Je suis très inquiète parce que tout est prêt pour que le Front National passe, pour que le populisme n'arrête pas de grimper. Et puis, on est passé quand même, c'était le premier chiffre qu'annonçait Nicolas Demorand en janvier, on est au 27e rang des pays corrompus. Enfin, vous voyez, on a quitté le top 10 et on n'est même plus dans le top 20, quoi. Et on n'est pas loin de la 30e place. Enfin, voilà, du coup, je suis inquiète.
J'entends votre inquiétude.
Je pense que vous, journalistes, vous avez un sacré rôle à jouer. Quoi,
On essaye, en tout cas. L'un des nôtres ici, c'est de créer du commun entre vous et nous. C'est ce qu'on est en train de faire, Isabelle. Merci beaucoup pour votre question. C'est pour vous, Stéphane Zumsteck, monsieur le sondeur, la question d'Isabelle. Sur son inquiétude, et qui reflète de toute façon l'inquiétude d'une manière générale de la manière dont la démocratie fonctionne dans ce moment-là. Pour ça, elle ressemble à beaucoup de Français, notre amie auditrice.
Oui, bien sûr, mais les Français sont inquiets de la situation, de manière générale, de la situation, et donc du blocage politique, mais aussi de la dégradation des indicateurs économiques, de la situation internationale. Mais en ce qui concerne vraiment ce qui se passe en France aujourd'hui, à l'Assemblée nationale ou dans le monde politique, il y a ce sentiment d'incompréhension de ce qu'est devenue la classe politique. Évidemment qu'Emmanuel Macron est le principal responsable dans l'esprit des Français, mais la classe politique dans son ensemble est aussi jugée particulièrement responsable de cette situation. Depuis quelques années, c'était très clair que les hommes et les femmes politiques n'étaient pas représentatifs des Français, ne tenaient pas compte des principales préoccupations des Français, étaient parfois corrompus, certes. Maintenant, il y a autre chose, c'est le sentiment d'impuissance et d'incapacité, en fait, de la classe politique. Ils n'y arrivent pas, c'est ce qu'ils nous disent dans les enquêtes. Ils n'y arrivent pas, c'est pas si compliqué que ça, dans l'esprit des Français, de passer un accord de gouvernement. On passe des arrangements, chacun négocie, et ça devrait fonctionner. Ça ne marche pas. Et ça, ça remet en question, comme vous le disiez, non pas uniquement le fonctionnement des institutions de la Ve République, ça c'est, on pourrait en parler, mais ça reste de la technique, presque, quelque part. Hein, c'est un mode de scrutin, et c'est une culture de la non-coalition dans la vie politique. Mais il y a aussi ce sentiment que, finalement, la démocratie participative ne marche pas si bien que ça, et que son fonctionnement en est vicié. Et donc, il faudrait, pour une partie, en tout cas une minorité encore, mais pour une partie des Françaises et des Français, passer à autre chose. Pas à l'abandon de la démocratie, mais en tout cas à plus d'autorité, à un vrai chef, à davantage de pouvoir concentré dans moins de personnes. C'est pas de la remise en cause de la démocratie, mais en tout cas c'est pas la démocratie en tout cas qui
non mais c'est un désir enfin,
c'est un désir ça parle oui d'un c'est désir, un désir et que finalement la démocratie parfois quand ça ne fonctionne pas il faudrait peut-être réfléchir. Ils veulent pas basculer dans le stalinisme ou dans le fascisme, ce n'est évidemment pas ça, mais malgré tout on le voit bien,
il faut que ce soit tenu, c'est ça que vous dites,
il faut que ce soit tenu parce que les hommes et les femmes politiques ne sont plus à la hauteur. En gros c'est ça.
Dans la deuxième partie de la question de notre auditrice Sozik Kemener, il y avait qu'est-ce qui se passe entre LR et le Rassemblement National. national. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux temps. Dans la déclaration de Bruno Retailleau hier, quand il quitte sans quitter, enfin, dans cette séquence bizarre, le gouvernement, ce qu'il met sur la table, on en parlait déjà hier, c'est l'immigration, c'est trop de exactement, merci beaucoup, c'était l'assistanat. Là, on voit que c'est de l'autre côté, du côté du Rassemblement National, qui semble avoir une main tendue. Donc, est-ce qu'on est à deux doigts de ça, en fait, cette fameuse union des droites, qui est un peu appelée de toutes parts et qui se fait, pour l'instant, pas vraiment?
Alors, il y a déjà ceux qui sont partis, c'est-à-dire l'UDR maintenant, c'est-à-dire les proches Éric Ciotti et ses proches qui ont créé un groupe à l'Assemblée et qui sont déjà allés rejoindre Marine Le Pen. Donc, ça a déjà ceux qui devaient partir, les premiers, sont déjà partis lors des précédentes élections législatives, enfin, lors des dernières élections législatives. Après, ce qui est sûr, c'est que si on était dans un cas de dissolution avec le RN qui est proche de la majorité absolue, il y aurait effectivement des députés LR qui feraient ce déplacement-là, mais on n'en est pas là pour l'instant. Bruno Retailleau n'est pas un partisan de l'Union des droites, hein. C'est important de le signaler. Alors Jordan Bardella sent que les LR sont un peu perdus, les électeurs LR, les cadres, donc c'est pour ça ce matin qu'il fait cette main tendue, mais pour l'instant il n'y a pas de réponse en ce sens des côtés des LR, en tout cas du côté de la direction des LR. Ce
qui est donc quand du même côté Wauquiez, mais pas du côté Retailleau, est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire ou pas?
Non, je dis pas ça, vraiment du côté, du côté de certains... Jordan Bardella cible certains cadre LR. En revanche, point de vue direction, qu'il s'agisse de la direction du groupe ou de la direction du parti, pour l'instant, il n'en est pas question.
Maxence ?
Non, mais c'est au cas par cas et on verra évidemment sans doute d'anciens députés LR et d'anciens candidats LR rejoindre le RN s'il y a des législatives demain. D'ailleurs, le RN a déjà réservé des circonscriptions pour eux. Une quarantaine de circonscriptions n'ont pas encore été attribuées et certaines le seront sans doute à ceux qui feront offre de service et ils seront évidemment accueillis à bras ouverts. Après, ça se passera quand le mur sera devant eux, c'est-à-dire que si le RN remporte 240 sièges, bien sûr que la question se posera et tout le monde s'y prépare. Évidemment qu'il y a une partie des LR qui sans doute sont tentés par cette aventure RN, bien sûr.
Et alors, il y a quand même la question du programme économique du RN, parce que évidemment, là, on ne les regarde pas eux, puisqu'ils ne sont pas au pouvoir. Mais ils sont d'accord sur rien, c'est-à-dire qu'il y a la ligne de Marine Le Pen qui est plus sur une ligne souverainiste, et on a de l'autre côté Jordan Bardella qui fait plutôt de l'œil aux petits patrons, aux artisans, et qui essaie d'avoir une ligne, on va dire, plus libérale, plus ciotiste en tout cas. Donc la question, souvent quand on posait la question, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de poser il y a quelques années la question à Laurent Wauquiez, qu'est-ce qui vous différencie profondément du Rassemblement National? Et déjà à l'époque il disait, l'économie, on n'est pas d'accord. Donc il y a quand même toutes ces questions-là à régler qui ne sont pas rien à l'approche d'une présidentielle.
Après, pour peut-être en finir, on verra avec les questions avec LR et notamment Bruno Retailleau. Il y a deux choses que j'aimerais pouvoir éclairer. Hier, c'est lui qui part. Alors avec le prétexte Bruno Le Maire, enfin en tout cas, on sent bien que c'est lui qui veut s'éloigner. Et puis là, on sent bien qu'il revient sans revenir. Mais enfin, c'est même lui qui prononce le mot d'un gouvernement de cohabitation. C'est d'ailleurs intéressant de voir ce que ça veut dire, gouvernement de cohabitation. Quand on parle de LR, quand on voit la gauche, on voit à peu près ce que ça peut vouloir dire. Pour LR, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc en fait, on a du mal à comprendre où il se situe, Stéphane Zumsteeg.
Moi, je trouve que les messages envoyés par Bruno Retailleau sont particulièrement flous depuis quelques jours. Très bien, on apprend qu'on lui aurait caché l'arrivée de Bruno Le Maire au poste de ministre des Armées. Donc il est fou de rage et il décide finalement de ne pas participer à ce que les LR envisage en tout cas de quitter ce gouvernement. Bon, le scalp de Bruno Le Maire, ils l'ont eu. Hein, il est parti. Il ne reste pas. Je me casse. Enfin, vous en parliez tout à l'heure. On l'entendait sur cette antenne. Et là, maintenant, alors que a priori, il y a encore trois jours, il était une partie intégrante du socle commun, il part d'un gouvernement de cohabitation. Donc d'un coup, en dépit de cette petite victoire symbolique concernant Bruno Le Maire, il se met dans la cohabitation. En gros, très clairement, moi je pense que là, on est dans la pure tactique. Tout le monde... chez les LR, en tout cas, et à mon avis pas uniquement chez les LR, se disait que la chute de Le Cornu était inévitable, et donc que des élections législatives anticipées sont fort probables, pas certaines, mais fort probables. L'idée, c'était de se dire, il ne faut pas qu'on soit à ce moment-là, au moment de la dissolution, au moment des élections, dans ce gouvernement de socle commun, parce que nous serons emportés dans la chute, nous serons emportés dans le gouffre avec la Macronie. Donc je pense que c'est une question de timing. Je ne suis pas persuadé qu'en termes d'image, les LR, et notamment Bruno Retailleau, en sortent particulièrement grandis. Parce que lui rêvait d'un moment fondateur, d'un acte fondateur, quand au début de l'année prochaine, les municipales, d'une vraie rupture, et il se... ça n'a pas pu se faire pour construire son destin présidentiel, et je trouve qu'il trouve un argument un peu facile et un peu pas fallacieux, mais qui n'était pas à la hauteur de son destin, quoi, en fait.
Maxence Lambrecq, avant de rejoindre Jacques qui nous attend en standard, juste une chose, pardon pour la question naïve, mais bien assumée, est-ce que vous pouvez me définir le socle commun au moment où on se parle, là, à 19h42, le
c'est
mardi
merci Fabienne. Non, mais le socle commun, ça a toujours été Horizon, Modem, LR et EPR, et le groupe Renaissance. Après, personne ne se fait d'illusions, chacun... Chacun sent bien que s'il y a des législatives, il faudra un pacte de non-agression entre ces quatre partis-là. Ils ne peuvent pas partir dans toutes les circonscriptions, chacun avec leur drapeau. Ils vont évidemment disparaître du paysage complètement. Personne ne sera au second tour dans ces conditions. Donc, ils savent très bien qu'ils vont devoir discuter. Ils discutent, à vrai dire, déjà, en fait, de la potentielle dissolution. Et pour l'instant, ils en sont sur les accords de principe. Bah oui, on ne va pas s'affronter tous partout les uns les autres, sinon on va mourir. Donc, il y a cet accord qui est en train de se dessiner. Après, là, dans les discussions autour de Sébastien Lecornu, personne ne s'imagine, enfin, personne n'imagine vraiment que les discussions du moment aboutissent. Donc, il ne se projette pas sur un nouveau gouvernement socle commun.
Alors, on va revenir à ce qu'on peut en faire de ce socle commun, mais Jacques nous attend depuis un bout de temps et je voudrais qu'on l'écoute. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je trouve que c'est un peu facile de faire jouer au président Macron le rôle de bouc émissaire. C'est à cause de lui que tous les problèmes actuels, le marasme actuel existe. Moi, je considère plutôt que ce sont les partis extrêmes, LFI et puis le Rassemblement National, pour ne pas les nommer, qui sont plutôt responsables de la situation actuelle, en refusant de négocier, en se cramponnant sur leurs positions, leurs revendications, sans prendre vraiment en considération l'intérêt général du pays. Ça, pour des raisons électoralistes. Je trouve que c'est vraiment regrettable.
Jacques, merci beaucoup pour cette remarque. Soizic Kemener, au fond, ce que j'entends chez nos auditeurs, Jacques n'est pas le premier, c'est que, certes, il y a la figure du chef de l'État, mais au fond, tout ça a servi de révélateur à beaucoup de choses qui étaient un peu sous le tapis ces derniers temps. Et là, parce qu'on s'approche d'une potentielle présidentielle, on va rentrer en campagne. Pouf, on a l'impression que tout est au grand jour.
Alors, côté de la France Insoumise, c'était au grand jour depuis longtemps. C'est-à-dire que, souvenez-vous, c'est déjà l'été dernier que Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il va mettre en route une procédure de destitution.
Alors, c'est vrai.
C'est encore le cas aujourd'hui, ça a très très peu de chances d'aboutir, mais c'est une manière quand même d'essayer de fragiliser le président de la République. En revanche, pour Marine Le Pen, alors il y a eu plusieurs étapes, mais en tout cas dernière volte-face, c'était cet été quand elle décide tout d'un coup de passer en mode censure à tout prix. C'est-à-dire que censure à tout prix de François Bayrou, les cadres RN le racontent, ils rentrent de vacances et là on comprend que les remontées de terrain auprès des députés ont été tellement fortes en disant on ne veut plus, les électeurs RN, on ne veut plus d'Emmanuel Macron, que Marine Le Pen se dit qu'il faut qu'elle porte ce message-là. D'ailleurs, regardez, aujourd'hui, Marine Le Pen ne parle plus du tout de la situation politique actuelle. C'est plus son sujet. Elle le dit même. On est allé jusqu'au bout du chemin. Maintenant, maintenant, il faut une dissolution, une démission immédiatement. Alors qu'auparavant, elle essayait de, par moment, on sait bien que c'est elle aussi qui avait contribué à faire chuter Michel Barnier, mais elle essayait d'avoir cet habit de respectabilité, en tout cas, de porter la stabilité, d'être la raisonnable. Enfin, elle essayait d'être la raisonnable dans la pièce.
Puisqu'on était dans le socle, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, moi je trouve que Jacques et Xavier qui nous ont appelé ce soir montre bien que bien sûr qu'il y a un socle électoral autour d'Emmanuel Macron qui existe toujours. On aurait tendance à croire que le RN ne cesse de progresser chaque jour. On a l'impression qu'il gagne un point chaque jour, mais non, il ne gagne pas un point chaque jour. Les sondages à 33%, ils en ont déjà eu.
Vous pensez que 33 c'est le
je pense que non, ce n'est pas du tout c'est pas forcément le score de demain. Et surtout moi qui ai bien suivi Marine Le Pen en 2017 par exemple, 30% c'était le score de départ, des premiers sondages de la présidentielle, et évidemment, elle a terminé bien plus bas. Je constate juste que la progression du RN n'est ni inéluctable, ni si puissante au quotidien. Je pense que chaque jour, un électeur modéré ne bascule pas du côté RN en se disant tous pourris, et finalement, Emmanuel Macron est un incapable, et il il n'y a que le RN qui sera une force d'alternance.
Est-ce que, parce que je vous écoute là, tous les trois, j'ai l'impression que il peut se passer n'importe quoi. De toute façon, il n'y aura pas de réponse demain, mercredi, alors qu'on aura, on sera au bout des 48 heures, et il n'y aura pas de nouvelles tentatives de Premier ministre. Soazic Kemener, vous le croyez ça ou pas? Est-ce que l'idée, parce que ça a été beaucoup quand même secoué depuis hier, l'idée d'un Premier ministre de gauche, quel qu'il soit, et d'un socle commun en un morceau ou en deux morceaux qui signerait ou qui dirait ou qui donnerait un accord de non-censure, est-ce que c'est hors de la table ou pas?
Je pense pas. Je pense qu'il faut raisonner par l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit bien quand Emmanuel Macron dit « S'il ne trouve pas un accord, je prendrai mes responsabilités », il dit à tous « Vous avez 48 heures pour éviter la dissolution ». Donc, avec un résultat, alors on verra ce qu'il en est, on sait où en sont les sondages. En tout cas, vous avez raison de souligner qu'entre les sondages du RN et les élections, on a souvent un écart important. Mais en tout cas, là, les sondages sur les législatives, c'est très compliqué, mais ça donne en tout cas un large avantage, on peut dire, au RN sans s'avancer sur le nombre de sièges, parce que c'est quasiment, c'est très très compliqué à faire, vous le direz mieux que moi. Et donc, il leur dit, Emmanuel Macron, trouvez une solution, sinon, grande force au RN, c'est le risque. Donc je pense que dans ces circonstances-là, souvent, on a eu des réponses politiques importantes. Regardez ce qui s'était passé en 2024, ce sursaut du second tour qui fait qu'on n'a pas eu les résultats du tout. Donc c'est ce qu'espère obtenir Emmanuel Macron. Et donc, dans ce qu'on comprend venant de l'Élysée, on comprend qu'il espère encore avoir un nouveau Premier ministre qui puisse mener à bien une solution politique, quelle qu'elle soit, pour ne pas recourir à la dissolution. Mais n'empêche qu'il se pare à toute éventualité. On ne sait pas ce qu'il en est de ce qu'il a été dit lors de la rencontre qu'il a eue aujourd'hui avec Gérard Larcher, président du Sénat.
Et Yael Braun-Pivet.
Et Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée. Mais en général, quand on les reçoit, c'est pour évoquer toutes les hypothèses institutionnelles. Voilà.
C'est pour juste augmenter la pression. Hein. C'est un signal pour leur dire et pour dire à tous les autres, regardez, je consulte déjà et je reçois cette fois-ci dans les termes et officiellement, physiquement, l'un après l'autre, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, pour dire aux partis politiques, voyez, tout est prêt et je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton.
Stéphane Zumsteg, et on retourne au standard.
Oui, ce qui complique quand même encore plus qu'auparavant l'équation et pour Sébastien Lecornu, évidemment pour Emmanuel Macron, c'est qu'on a assisté quand même ces dernières semaines ou ces derniers mois. Alors, il y a eu des mesures d'opinion, des enquêtes d'opinion, il y a aussi des élections législatives partielles qui ont eu lieu. Il faut toujours être prudent, il y a une forte abstention. Mais qu'est-ce qu'on constate? Il y a quand même un rééquilibrage entre la droite LR et la Macronie dans les enquêtes d'opinion d'une part et dans les élections législatives partielles où la droite a ravi un certain nombre de sièges au sortant du bloc central, du bloc macroniste, et le Parti Socialiste ou le centre-gauche ou la social-démocratie, que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit Raphaël Glucksmann dans les intentions de vote présidentielle, sont dans une situation plus favorable aujourd'hui que les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait des élections législatives la semaine prochaine, évidemment, je suis incapable de faire une projection, je serais incapable, comme vous, de faire une projection siège, mais je pense que le PS et les LR en sortiraient renforcés en nombre de sièges. Et la conséquence, là où je veux en arriver, c'est que aujourd'hui, et c'est en ça que l'équation est très compliquée pour le président de la République, le PS, comme les LR, n'ont plus peur d'une dissolution. Ils ne la réclament pas forcément, ce sont des partis de gouvernement, ils essaient de trouver une solution, mais ils n'en ont pas peur parce qu'ils n'en sortiraient pas laminés. Alors qu'en l'occurrence, la Macronie en sortirait laminée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui pèse sur le couple exécutif. Ils n'ont plus peur. Ils ont très longtemps été tétanisés, peur de l'effacement, effacement par les Insoumis, effacement par le Rassemblement National pour la droite, mais ce n'est plus le cas. Et ça, c'est un élément important assez récent.
Baïja, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci de la qualité de vos émissions. C'est un plaisir de réécouter. Je ne réécoute France Inter qu'à partir de 18h depuis la rentrée. Deux petites observations, une question.
Moi, ça me va. Allez-y.
La première observation, je suis d'origine immigrée. Ça suffit de parler d'immigration. Il faut que les Français se rappellent que le solde démographique est négatif et que sans l'arrivée de l'immigration aujourd'hui, demain et après-demain, ça va poser des problèmes pour notamment les dispositifs, les droits sociaux, etc., etc. L'immigration vient travailler, cotiser, payer des impôts et permettre aux Français de pouvoir encore percevoir les retraites pleinement chaque mois. Deuxième observation, je voulais savoir si enfin aujourd'hui on va se rendre compte que la 5e République est finie. Je ne suis pas d'accord avec un de vos intervenants. Si Emmanuel Macron avait respecté les résultats des élections législatives et nommer un membre du NFP au gouvernement, il se serait pas passé pire qu'aujourd'hui. Pas pire. Et ma question est, est-ce qu'on peut nous expliquer comment se fait-il que au sein de la Ve République, avec la Constitution de 58, un ministre nommé par un Premier ministre qui est en charge de la nomination de son équipe gouvernementale aurait un droit de veto sur les collègues de travail. On le voit nulle part dans une entreprise. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, M. Retailleau se permette de choisir le casting alors qu'il n'est pas le Premier ministre ?
Merci.
C'est bien la Ve République qui est en bout de course.
Merci Vaïja pour cette remarque. Alors je ne sais pas si c'est la Ve République qui empêcherait ou qui empêche ou pas Soazic Kemener de dire du mal d'un collègue de travail, comme dit notre ami Vaïja. Mais la question de l'épuisement de la Ve, en fait, de l'épuisement de ce régime ultra-présidentiel, elle revient à chaque fois, elle reviendra demain et après-demain. Il faudra peut-être mettre les mains dans ce cambouis-là un moment ou pas
ben... Pour l'instant, tous les instruments n'ont pas encore été utilisés par le président de la République. C'est-à-dire que, alors effectivement, il a dissous, il n'a pas fait de référendum, par exemple. Mmh. Ça peut encore être une possibilité, même si on imagine mal qu'il fasse ça en ce moment. Mais il n'a pas tout essayé de la Ve.
On va dire bonne chance.
Et pour l'instant, elle résiste. Alors là, effectivement, dans cette configuration précise, c'est-à-dire une absence de majorité à l'Assemblée, on avait connu la cohabitation, c'est-à-dire la majorité nette contre le président de la République, finalement, ça s'était plutôt bien déroulé. D'ailleurs, c'est une période que les Français avaient adorée. C'est ce que disent souvent les historiens, c'est que c'était un moment où ils trouvaient qu'il y avait une forme d'équilibre. Là, on pouvait penser qu'il y avait une forme d'équilibre au Parlement après les résultats qui ressemblaient à un résultat d'élection à la proportionnelle en 2024. Et de cet équilibre voulu par les Français est né un grand déséquilibre politique. Donc il manque peut-être l'instrument pour réussir à faire face à la tripartition. C'est en ça, peut-être que la Ve devrait évoluer.
Stéphane Zumsteig, sur effectivement la Ve, la Sixième, on voit bien que les opinions là aussi sont en train de pousser dans ce sens, mais je voudrais revenir à ce que dit Soazic Kemener. En effet, on a l'impression peut-être en 2022 que le message envoyé par les électeurs c'était « redonnez-nous une forme de cohabitation ». On a adoré ça, il faut arriver à se remettre dedans. Est-ce que si d'aventure, parce que c'est le mot qu'on recommence à utiliser, si d'aventure il y a une solution qui consisterait à prendre un Premier ministre de gauche, est-ce qu'on se retrouve à nouveau dans une forme de cohabitation telle qu'on l'a connue, susceptible peut-être de faire redescendre la tension, à votre avis ? Je parle de la tension de l'opinion.
Bien sûr, alors... La tension de l'opinion, le problème, c'est qu'il y a des opinions. Il n'y a pas une opposition de majorité, il y a des oppositions. Je pense que, enfin, vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Mais voilà. Mais, évidemment, quand on est un insoumis ou un électeur de gauche, quelle qu'en soit la formation politique dont on se sent le plus proche, ou quelqu'un du Rassemblement National et des LR, on n'a rien à voir. Ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont même pas la même perception de ce que doit être un chef de parti ou un chef d'État. Après, est-ce qu'il y a une nostalgie d'une période plus équilibrée ? C'est vrai que la période, notamment, de cohabitation Jospin-Chirac, 1997-2002, avait été assez apaisé. Ça s'était très mal fini à la présidentielle, mais il y avait une certaine harmonie, je ne sais pas, mais les choses se passaient bien.
Mais peut-être que ça nous ramène, pardon de vous interrompre, à la question de notre premier auditeur en fait, parce que dans cette configuration-là, Emmanuel Macron continue de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur effectivement, et d'être la voix de la France à l'extérieur, donc de ce point de vue-là, vraisemblablement les électeurs n'ont pas grand-chose à dire, et puis à l'intérieur, il se passe autre chose en fait.
Mais ça renvoie à autre chose, alors à quoi servent à quoi sert une élection présidentielle ? Parce que si c'est pour représenter la France à l'international, ce sera peut-être un petit peu léger. Voilà, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que les Français, le régime, enfin, nous ne sommes pas dans un régime présidentiel, le président, un régime un peu mixte avec le président qui a des pouvoirs bien plus importants que dans d'autres États européens, que chez nos voisins. Ça, c'est la principale réalité, mais ce qu'ils veulent, quand même un chef ou une chef. L'équation personnelle, enfin, l'expression là encore éculée de une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et les Français. Ça marche encore. Vous votez pour une incarnation. Quand vous votez pour Nicolas Sarkozy, vous ne votez pas pour n'importe qui. Quand vous votez pour Emmanuel Macron en 2017, c'est aussi la même chose. C'est des gens qui sont porteurs d'un message, qui ont un certain charisme, qui font des choix plus ou moins radicaux. Mais on est fiers, quelque part, d'avoir une incarnation et on se range quand même, une grande partie de l'électorat, en tout cas, se range derrière quelqu'un qui incarne ses valeurs, mais qui a vraiment du charisme et de l'autorité. C'est la même chose avec les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon. Donc il faut un fort caractère pour devenir, à mon sens, en tout cas, président de la République. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est un vrai problème. Mais pour en finir avec votre question, il y avait peut-être cette nostalgie, mais ce que l'on reproche à Emmanuel Macron avec sa, ces élections législatives non anticipées, les normales de 2022, qui se passent plutôt mal pour lui, qui sont décevantes puisqu'il ne disposera pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait, il y a le sentiment qu'on est en droit de refuser les pleins pouvoirs à un président de la République. Alors, pas au sens constitutionnel, mais regardez la réforme des retraites. Ouais. Emmanuel Macron, il a été réélu assez brillamment en 2022, 17 points d'avance sur Marine Le Pen. Il dispose d'une majorité relative, mais puissante, à l'Assemblée nationale. Et quand Elisabeth Borne va présenter le projet de réforme de la retraite, là, c'est une levée des boucliers, en disant « c'est injuste ». Pour qui se prend-il ? De quel droit fait-il ça ? Mais jusqu'à présent, c'est comme ça qu'ont gouverné les Français. Et ça, c'est fini. Quand vous allez à l'encontre de la majorité de la population, il y a ce sentiment qu'en fait, il va trop loin et que soit il faut le destituer, soit il faut le faire partir, soit il faut dissoudre. Et ça, c'est assez nouveau. Avant, vous aviez la majorité, vous faisiez pas forcément ce que vous vouliez, mais en tout cas, vous pouviez faire passer en force très rapidement des réformes. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça vaut pour Macron, ça vaudra pour ses successeurs.
On a Boris qui s'amuse sur WhatsApp et qui nous dit, bon, découvrir que le pays marche même sans gouvernement, et aussi, au fond, sans président. Et après tout, effectivement, le monde ne s'est pas écroulé. Quand on a commencé cette émission, Maxence Lambrecq, la question était de savoir si, où était la responsabilité ou pas d'Emmanuel Macron, mais surtout autour, qui y avait autour de lui, qui y a encore autour de lui, très sincèrement, les amis d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ceux sur qui il peut compter, c'est qui?
Mais non, il n'y a quasiment plus personne, il ne faut pas se leurrer, il n'y a plus personne pour porter sa parole aujourd'hui dans les médias, et quasiment plus personne n'ose s'exposer et dire je défends toutes les décisions du président du matin au soir. Autour de lui, physiquement, il n'y a que son cercle proche de l'Élysée, mais l'Élysée est plutôt une forteresse, et il n'a pas de parti politique. Son parti présidentiel n'est plus le sien, et Gabriel Attal fait tout pour que la distance soit de plus en plus grande au fil des jours. Donc non, il a quasiment plus personne. À l'Assemblée, il a quasiment plus de relais. Ils ont tous été tellement traumatisés par la dissolution. Ils se sentent rescapés, mais ils ont l'impression de rien devoir à Emmanuel Macron, puisqu'ils ont été réélus malgré lui, malgré sa décision. Donc l'entourage d'Emmanuel Macron est très faible, et même ses anciens ministres. Je lisais tout à l'heure un portrait d'Olivier Véran, par exemple, qui a quand même été l'un des porte-paroles, l'un de ses ministres les plus proches. Il n'y a plus aucun contact, il n'y a plus aucun message, il n'y a plus rien entre ces deux hommes qui ont passé des années très intenses ensemble. Et Emmanuel Macron a toujours eu du mal à dire aux gens que c'était fini. Donc souvent, c'est par étapes successives d'éloignement, et puis il n'y a jamais vraiment rupture. Et au fond, c'est aussi comme ça qu'autour de lui, le vide s'est fait, parce qu'il n'a pas forcément traité chacun comme il l'attendait.
Et décidé beaucoup de choses tout seul, effectivement. Et donc, puisqu'il décide tout seul,
c'est ce que fait qu'Edouard Philippe, exactement, aujourd'hui, il va très fort.
Est-ce qu'on reparlera de ces questions?
Non, jamais.
Mais t'as vu que peut-être. Voici la question des petits bateaux de ce soir, c'est celle d'Héloïse, qui a 7 ans.
Pourquoi le sucre est bon et pas bon pour la santé?
Allez, réponse dans 3 minutes.